VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. En RCA, de nouvelles accusations d'abus sexuels portées contre les casques bleus. Quatre fillettes auraient été soumises à une exploitation sexuelle par des soldats participant à la mission de l'ONU à Bangui. Les autorités gabonaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Mélie Segal.
Selon des sources à l'ONU, les agresseurs présumés sont des soldats du Gabon, d'Égypte et du Maroc. La procédure onusienne prévoit que ces pays mènent les enquêtes et prennent des sanctions contre leurs ressortissants si les allégations sont vérifiées. Alain-Claude Bilibinzé, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement gabonais, a annoncé l'ouverture d'une enquête et a assuré qu'il y aura des sanctions si ces accusations sont vraies. L'ONU sort à peine d'un scandale de viol d'enfants impliquant des soldats français entre 2013 et 2014. L'année dernière, le général Babacar Gaye, chef de la MINUSCA, a été démis de ses fonctions à la suite d'accusations de viol portées sur d'autres casques bleus en Centrafrique.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition réunie au sein de la plateforme FROCAD-IDC a accepté de participer à l'élection présidentielle de mars prochain. C'est l'une des principales conclusions de la convention que cette plateforme a tenue à Brazzaville. La coalition dit aussi continuer à réfléchir sur la stratégie de candidat unique pour l'opposition. Une coordination de la plateforme FROCAD-IDC a été mise en place, dirigée par Charles Zachary Boaro, ancien ministre de la Défense, passé à l'opposition de Brazzaville. La correspondance de Nguela Ngoussou.
C'est dans une salle comble que les militants de l'opposition venus de différents quartiers de Brazzaville ont eu connaissance de la moisson de leur convention. Le FROCAD et l'IDC acceptent de participer à l'élection présidentielle de mars prochain. Dorothée Mobonda, rapporteur de la convention.
Prendre toutes les dispositions nécessaires pour une victoire certaine de l'opposition à l'élection présidentielle de 2016. L'Assemblée plénière a engagé le comité de coordination du FROCAD-IDC après validation officielle des candidatures à mettre en œuvre l'option stratégique de la candidature unique de l'opposition ou des candidatures en tenant compte du contexte sociologique. Pour obtenir ces conditions minimales de participation à l'élection présidentielle, la Commission a reconnu la nécessité pour les plateformes FROCAD-IDC d'établir et de développer un rapport de force sur le terrain politique, diplomatique et parlementaire qui devra s'étendre à toutes les étapes du processus électoral. En ce qui concerne notamment l'indépendance réelle de la CNEI.
Au sujet de la candidature unique de l'opposition congolaise, les débats se poursuivent. Le professeur Charles Zachary Boaou, désigné coordonnateur de l'opposition, explique la démarche.
La possibilité d'avoir quelques candidatures, pas 10, pas 5, 2, 3, en fonction de la manière dont nous lirons le comportement du corps électoral, nous permettront de tirer la conclusion qu'il le faut et attend. Entendu que nous entendons gagner si toutes les conditions sont réunies dès le premier tour, mais c'est une élection. Si nous devons aller au deuxième tour, là aussi, nous savons ce que nous avons à faire pour que nous trouvions une stratégie globale pour nous permettre d'aller avec les chances de battre le candidat que nous aurons en face. Le pays est en fait dans ce que nous appelons la nébuleuse constitutionnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, justement, le président Denis Sassou Nguesso voudrait obtenir une nouvelle légitimité.
C'est en entonnant en chœur l'hymne national que les 200 délégués de l'opposition se sont séparés. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, l'OMS a proclamé officiellement aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avec l'arrêt de la transmission du virus au Libéria. L'Organisation mondiale de la santé affirme que toutes les chaînes connues de transmission en Afrique de l'Ouest ont été stoppées, mais le risque persiste et un vaccin est nécessaire, a indiqué Pierre Mendiharat, chef de programme à Médecins sans frontières au Libéria, qui parle des perspectives de la lutte contre la fièvre hémorragique. On l'écoute.
L'amplitude inédite de cette épidémie a montré le problème des maladies qu'on appelle négligées, qui parce qu'elles arrivent dans des pays en fait qui ne sont pas des pays riches et que elle ne touche pas, heureusement, tant de personnes que ça. Elle n'intéresse pas du tout la recherche scientifique commerciale, on va dire, des entreprises pharmaceutiques. Et on s'est aperçu qu'il n'existait aucun traitement et aucun vaccin pour cette maladie, pourtant mortelle à 60% des cas. Ça nous a rappelé que finalement, les systèmes publics, l'OMS, les organisations comme la nôtre, et on essaie de le faire aussi, doivent essayer de financer, de trouver des modèles innovants pour faire de la recherche scientifique, pour trouver des modèles pour ces maladies dites négligées.
Pierre Mendy Arat, chef de programme à MSF au Libéria, il était joint à Monrovia. C'est donc l'arrêt de la transmission du virus Ebola au Libéria qui a mis le point final à l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Plus de précisions avec Michel Joseph.
Après la Sierra Leone le 7 novembre et la Guinée le 29 décembre, le Libéria, officiellement déclaré aujourd'hui par l'OMS, est exempt de transmission du virus Ebola. Cela fait 42 jours, deux fois la durée maximale d'incubation depuis le test négatif sur le dernier patient. Mais le risque persiste car le virus peut subsister dans certains liquides corporels de survivants, notamment le sperme, où il peut survivre jusqu'à 9 mois. Le Libéria avait déjà été déclaré exempt en mai dernier, puis en septembre 2015, mais a connu à chaque fois des résurgences localisées. Parti du sud de la Guinée en décembre 2013, le virus Ebola s'est propagé dans plusieurs pays, faisant 11 315 morts pour 28 637 cas recensés. De l'aveu de l'OMS, cette épidémie a été la plus dévastatrice depuis l'identification du virus Ebola en 1976 en Afrique centrale.
En Côte d'Ivoire, l'ONU va continuer de réduire les effectifs de sa mission à cause de l'amélioration de la sécurité et du bon déroulement de la récente élection présidentielle. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, a déclaré devant le Conseil de sécurité que les effectifs de l'ONUCI, soit 5 437 soldats et 1 500 policiers, vont passer à 4 000 soldats d'ici au 31 mars. Selon l'ancienne chef de la diplomatie nigérienne, aucun incident grave n'a émaillé la période des élections ivoiriennes, mais les actes de banditisme et des vols à main armée restent un problème, de même que les menaces d'attaques terroristes. Elle a ajouté aussi que le gouvernement ivoirien doit accélérer la réconciliation nationale, qui est à la traîne derrière la reconstruction et le redressement économique. Pour sa part, l'ambassadeur ivoirien Claude Bois-Camon a indiqué que son gouvernement souhaitait un retrait de l'ONUCI en décembre 2017, avec possibilité de prolongement en début de 2018.
Au Burkina Faso voisin, le gouvernement post-transition du président Roch Kabore compte 30 ministres, dont 7 femmes. Ce gouvernement qui doit stabiliser la démocratie et faire face au chômage massif et endémique des jeunes, selon le premier ministre Paul Kabatieba, devrait manquer la rupture avec l'ère de Blaise Compaoré, qui a dirigé le pays désormais intègre avec une main de fer. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Ouagadougou, le directeur de l'école de journalisme et centre de recherche Hypermic, Serge Théophile Balima.
Globalement, on peut dire que c'est une rupture d'avec l'ère Compaoré. C'est vrai qu'il y a quelques grands acteurs qui ont cheminé longtemps avec le président Compaoré, qui ont joué cependant les premiers rôles dans la contestation de sa volonté démesurée de modifier l'article 37 de la Constitution. Alors ces gens qui ont divorcé d'avec lui avec fracas, avec risque énorme, je pense, mérite qu'on leur fasse confiance, ne serait-ce que dans un premier temps, jusqu'à ce que les actes qu'ils vont poser nous prouvent qu'ils veulent nous ramener au temps de l'ère Compaoré. Mais je pense que pour le moment, on peut émettre une hypothèse positive jusqu'à preuve du contraire.
Serge Théophile Balima, joint à Ouagadougou. Et puis la Tunisie marque aujourd'hui le 5e anniversaire de la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali qui a ouvert une ère nouvelle de liberté sans toutefois résoudre à ce jour les profondes difficultés du pays. Rappelons que le 14 janvier 2011, après un mois de manifestations réprimées dans le sang, l'homme qui tenait le pays d'une main de fer depuis 23 ans a pris la fuite vers l'Arabie Saoudite à la surprise générale, provoquant une onde de choc dans le monde arabe. Et pour terminer, Indonésie, au moins 4 personnes tuées dans des explosions causées par une bombe aujourd'hui au centre de Jakarta. Des coups de feu ont été entendus à l'extérieur d'un café à l'approche des policiers armés, a constaté également un journaliste de l'AFP. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.